Bon, Pierre-Yves Couchetard qui veut acheter des stations-service en Australie, une transaction quand même de plusieurs milliards.
Et ça m'a fait penser à Rona, à Provigo et à Saint-Hubert. Tu te souviens, on s'est au Québec rebellé en disant on se fait prendre nos sièges sociaux. Non, c'était le temps de vendre. Et puis là, on a Couchetard qui s'en va faire une acquisition à l'extérieur potentiellement de Caltech de 2000 stations. Bon, c'était une espèce de partenariat, mais en somme, pour près de 8 milliards de dollars canadiens. Puis là, tu te dis, est-ce qu'on veut ça? Ben oui, on veut ça, nous. On veut ça, la domination mondiale du Québec quelque part. Et quand on regarde l'action de Couchetard, on remarque que, justement, ça ferait du bien à Couchetard d'avoir d'expansion pour l'actionnaire parce que on atteint un certain plafonnement à 43 $ depuis 2015. Je sais qu'avant 2015, il y a eu pendant 2015 une grosse hausse de l'action, mais disons que cette année, là, chaque fois qu'on atteint 43 $, whoop, on plafonne. Et puis, je suis allé voir les états financiers. Tu sais, pour donner une idée de ce que c'est Couchetard, un trimestre, là, 3 mois, c'est plus 14 milliards de dollars américains en revenus. Et c'est 536 millions de bénéfices nets. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir d'où provient l'argent. Écoute, 25% des ventes proviennent de la nourriture puis des marchandises. Mais 54% des profits bruts. Ce qui veut dire, quand vous débarquez chez Couchetard puis vous mettez de l'essence dans votre voiture, Couchetard fait une marge d'exploitation de 9,7% puis ils sont contents de marge brute. Mais, attention, c'est quand tu t'en vas t'acheter un chip pendant que tu leur fais plaisir. Dans le fond, l'essence est le produit d'appel pour te vendre un petit chip, une petite loto, un petit paquet de cigarettes, un petit muffin. Et c'est ça la menace de Couchetard. Tous les dépanneurs Couchetard qui sont liés à une station d'essence, qu'arrivera-t-il le jour où il n'y aura plus de station d'essence? Bon, on n'est pas demain matin, là. Mais ça doit être dans les risques analysés par les propriétaires de Couchetard et les beaux commerciaux et comment on va développer notre marché dans le futur. Parce que tu vas chez Couchetard, par exemple, quand il est à côté de chez toi pour une commission, mais d'aller volontairement chez Couchetard à la place de l'épicerie, quand il n'y aura plus de logique d'appel par l'essence, ça va être les Couchetards de proximité. Donc, c'est un modèle d'affaires qui sera différent.
Intéressant à suivre quand même. Mais là, on a un autre sujet un peu plus... qui nous touche plus directement. L'amour et le patrimoine familial. Il y a un beau cas dans la presse ce matin, un jugement qui a été rendu.
Bon, évidemment, on mélange deux choses. Dans la presse, on souligne le fait que le monsieur était adultère, donc on s'en fout un peu parce que si toutes les personnes, hommes, femmes, adultères, avaient des problèmes avec le patrimoine familial, ce serait pas fini, tu sais. Mais, on dit dans le fond, le gars va devant le juge avec son ex-conjointe, qui était mariée, pendant 17 ans, ils ont eu une relation ensemble, et on décide, par jugement, que le patrimoine familial ne sera pas partagé de façon égale parce que monsieur a eu un train de vie qui visait, dans le fond, à dilapider le patrimoine familial. Il y a eu, dans le fond, des maîtresses et un amant. Et donc, on juge que pour maintenir ses activités, il n'a pas assez contribué au patrimoine. D'ailleurs, il a beaucoup moins de REER que son ex-conjointe. Et par conséquent, il va avoir droit à une partie de la maison, mais elle gardera le droit sur son REER. Et cette réflexion-là est intéressante, Paul, parce que ça amène le jugement automatique sur le patrimoine familial à être vu différemment. On dit quand que le mariage est de courte durée, qu'il y a dilapidation de biens ou qu'il y a de la mauvaise foi, ben la règle du patrimoine familial, c'est une exception. Et ça, je l'ai appris ce matin. Et là, je commence à extrapoler à d'autres cas. Puis j'ai des cas, des fois, des gens qui m'écrivent.
Vas-y.
Tu sais, ton conjoint est un flambeau. Il travaille pas. Il est dépensier. Passe de job-in en job-in. Il travaille à temps partiel. Ça, il tente pas. Est-ce que on pourrait dire qu'il volontairement ne contribue pas à l'effort économique du couple et par conséquent mérite moins? J'ai un autre cas, une dame qui me dit un jour, tu sais, mon conjoint s'achète un skidoo, mais c'est une décision de couple. Mais j'en ai rien à faire du skidoo, moi. Donc, tu vois, tu choisis d'attribuer des actifs économiques communs à un bien-être personnel. On va aller plus loin. Quelqu'un, quand c'est pas pour les enfants, là, qui décide juste de travailler moins fort, de faire peu d'efforts dans sa job, d'être passif, de toujours changer d'emploi. Est-ce qu'on peut dire que cette personne-là, dans le couple, qui devient une espèce de boulet économique parfois, fait un bris moral de l'alliance économique? Et par conséquent, s'il y a séparation, Est-ce que cette personne-là devrait avoir autant de patrimoine familial? Et là, pas léger.
Mais là, ça devient...
du monde sursauter dans leur...
Non, mais tracer la ligne dans le sable, là, c'est pas simple. Là.
Mais c'est pas évident. Qu'est-ce qui est un effort raisonnable?
Tu sais, peut-être que j'ai pas la formation, peut-être que j'ai pas, je sais pas, les opportunités d'emploi. C'est pas parce que, tu sais, tu vas débattre, est-ce que t'es paresseux flambou? Ben, c'est parce que t'as pas eu de chance.
Ben, c'est la bonne question, parce que là, si on pousse la notion de contribution économique, on peut dire, ben... Monsieur a eu ses REER pleins ou madame a eu ses REER pleins parce que le couple a décidé que finalement on contribuait au REER d'un plutôt que de l'autre, puis l'autre a payé les dépenses courantes. Hey, c'est dur à prouver, ça. À moins de garder un fichier Excel.
Oui.
Moi, j'ai vu ça une fois. Une fille qui avait gardé un fichier Excel depuis le début de sa relation. Fait que quand la relation est venue à terme, elle a démontré à son ex, regarde, là, j'ai dépensé depuis le début 10 388 dans tes dépenses, puis écoute, elle avait tout gardé, mais bon, là, tu vas me dire, Paul, ça commence à être fatigant de faire ça, mais tu vois comment la notion de patrimoine familial, c'est pas blanc, c'est pas noir.
Je vais en parler avec Maître Schirm aussi tantôt.
Oui, j'entends ça.
Ben oui, c'est un beau sujet.
Tu sais, mettons, on oublie la situation actuelle, mettons que t'es marié avec un flambeau, là, qui décide de pas travailler, là, ou qui veut pas, là, y a-tu quelque chose qui peut te protéger dans le patrimoine familial? Tu sais, tu te maries, 2 ans plus tard, la personne te dit, « Hey, ça me tente plus de travailler. » Je vais passer de job-in en job-in, on travaille 10 heures par semaine, mais on est mariés, fait qu'on partage, puis toi épargne. Est-ce qu'on peut faire ça? Il peut-il y avoir un bris de contrat moral d'effort économique conjugal?
C'est une belle question, peut-être une réponse tantôt.
Salut.
Salut, 7h21.